France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la censure du roman Ravage de Violette Leduc. En 1954, quand cette écrivaine propose son troisième manuscrit à la vénérable maison Gallimard, c'est la douche froide. L'éditeur est formel, hors de question de publier le texte tel quel. Pourquoi ? Parce que l'écrivaine y raconte, en toute franchise, sa vie amoureuse et sexuelle. Oh, bien sûr, des hommes ont déjà produit des écrits bien plus crus. Mais dans la bouche d'une femme, ça gêne, vous comprenez ? Et puis, il y a cette description détaillée d'un avortement, une procédure alors illégale. Et ces histoires d'amour entre femmes, non, franchement, c'est trop pour la maison Gallimard. Trop choquant, trop risqué, trop tout. Alors, le roman est dépecé de ses passages les plus osés. Cette censure traumatisera Violette Leduc à tel point qu'elle passera plusieurs mois dans une clinique spécialisée. Il faudra attendre 2023, donc 70 ans plus tard, pour que le texte obtienne enfin réparation. Notre invité aujourd'hui, Anaïs Frantz, docteur en littérature et civilisation française, spécialiste de l'œuvre de Violette Leduc. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marie Kirchen, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Koum.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Paris, mai 1954. Les rues du quartier de Saint-Germain-des-Prés grouillent de monde. Malgré les températures un peu fraîches de ce printemps, les terrasses de café sont déjà très fréquentées. Le kiosquier met en place les journaux du jour. Sur le boulevard Saint-Germain, des taxis klaxonnent, agacés de se retrouver coincés dans les bouchons. Soudain, une silhouette se faufile entre les voitures immobilisées. Cette silhouette, au pas déterminé, c'est celle de Simone de Beauvoir. 5 ans plus tôt, l'autrice a publié Le Deuxième Sexe, qui a fait grand bruit et de très belles ventes. Mais aujourd'hui, c'est le texte d'une autre qu'elle est venue défendre. Elle a rendez-vous avec l'écrivain Raymond Queneau pour évoquer le manuscrit intitulé « Ravage » de Violette Leduc, qui est, pour ainsi dire, sa protégée. Raymond Queneau, qui siège au comité de lecture de Gallimard, a été chargé de lire le texte pour rendre un avis. La maison d'édition a déjà publié les 2 premiers ouvrages de Violette Leduc, mais voudra-t-elle de cette 3e production ? Parce que l'écrivaine y narre, de manière romancée, sa vie sentimentale, de son adolescence jusqu'à la trentaine. Tout d'abord, sa découverte de l'amour et de la sensualité en pensionnat, avec la fougueuse Isabelle alors qu'elle a 18 ans. Puis sa longue histoire avec celle qu'elle renomme Cécile, avec qui elle a vécu plusieurs années. Enfin, son mariage raté avec un homme, Marc, qui se termine par un avortement et une tentative de suicide. Simone de Beauvoir a conscience que le livre est peut-être un peu cru, qu'il peut choquer ces messieurs de l'édition. Mais elle a retravaillé le texte avec Violette pendant de longs mois. Et elle sait qu'il dit des choses avec honnêteté, ce texte. Et surtout avec style. Alors que Simone de Beauvoir arrive à son rendez-vous, elle salue Raymond Queneau et passe aux choses sérieuses. Alors, qu'en a-t-il pensé ? Eh bien, Queneau commence par les compliments. C'est un homme poli. Oui, il a aimé, le roman a de grandes qualités littéraires, mais il y a plusieurs passages qui ne passent pas. Pour lui, c'est clair, le texte est impubliable en l'état. Ce qui coince, ce sont les descriptions réalistes de ce que peut être la sexualité vécue par une femme, y compris dans ses moments de maladresse, voire même de violence. Ainsi, le premier rapport hétérosexuel de l'héroïne est une fellation forcée par son futur mari dans un taxi. Malaise. Autre reproche adressé au livre, les scènes de tentative d'avortement bien trop précises dans la manière de faire. Car cet acte est toujours interdit à l'époque. Et Gallimard crée un procès. Enfin, et surtout, c'est la première partie du roman, l'histoire d'amour adolescente qui bloque. Violette Leduc s'y renomme Thérèse. Son premier prénom à l'état civil est décrit sans détour ni regret l'enivrement qu'il a alors saisi dans les bras d'Isabelle.
Isabelle me tira en arrière, elle me coucha en travers l'édredon, elle me souleva, elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entrouvrirent les miennes. Mouillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya, le sexe étrange n'entra pas. J'attendais, absente et recueillie. Les lèvres se promenèrent sur mes lèvres. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait deux notes piquées. Elle revenait. Elle hivernait. Elle avait fait son miel sur mes lèvres. Les sphinx s'étaient rendormis. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer.
Simone de Beauvoir n'est pas surprise par les réserves de Raymond Queneau. Elle connaît la maison, mais elle se bat, elle argumente. Enfin voyons, Violette le Duc livre sa vie dans ce texte. Elle a failli mourir lors de ses tentatives d'avortement. Toutes les vérités de la vie d'une femme ne seraient-elles donc pas bonnes à dire ? Sartre, son compagnon, a lu Ravage, et il le trouve obsessionnel et sensationnel. Alors Beauvoir a une idée. Et si Jacques Lemarchand lisait lui aussi le manuscrit ? Ce critique littéraire est également membre du comité de lecture de Gallimard, et son opinion a du poids. Et si, comme elle l'espère, il aime le texte, il pourrait faire changer d'avis Gallimard. Mais voici la note de lecture que Lemarchand rédige quelques jours plus tard.
C'est un livre dont un bon tiers est d'une obscénité énorme et précise, et qui attirerait les foudres de la justice. L'histoire des collégiennes pourrait, à elle seule, constituer un récit assez envoûtant si l'auteur consentait à entourer d'un peu d'ombre ses techniques opératoires. Publié tel quel, ce serait un livre à scandale, et les qualités du livre, qui en seraient en outre étouffées, ne justifient pas ce scandale.
Le 14 mai 1954, c'est au tour de Violette Leduc elle-même d'aller plaider sa cause face à Jacques Lemarchand. L'écrivaine a alors 47 ans et a placé beaucoup d'espoir dans ce roman. Mais Lemarchand est intraitable. Tel quel, le manuscrit est refusé. Ou alors il faudrait supprimer toute la partie Thérèse et Isabelle qu'on pourrait peut-être publier à part, sous le manteau, voyez. Mais surtout pas chez Gallimard. Pour le reste du texte, il faut... Je cite l'édition, « supprimer l'érotisme et garder l'affectivité ». Face à lui, Violette Leduc est prostrée. Le livre représente 6 ans de travail acharné, dont 3 rien que sur les 150 pages consacrées à l'histoire d'amour avec Isabelle. Tout ça au rebut. Et puis c'est sa vie qui a servi de matière première au texte. Et voilà qu'on parle d'un truc sale. Violent. Par ailleurs, on peut s'étonner de la réaction de Gallimard. Cet éditeur ne vient-il pas de publier Jean Genet, qui lui aussi parle d'homosexualité, et dans des termes tout aussi crus? Mais qu'une plume féminine décrive aussi frontalement la sexualité dérange. L'éditeur craint également la commission de censure étatique, mise en place quelques années auparavant. Les livres de Violette le Duc ne se vendent pas assez bien pour que l'éditeur prenne le risque. Donc, il choisit de l'anticiper. Alors Violette le Duc démarche quelques autres maisons d'édition, sans succès. Pire, les coupes proposées sont encore plus drastiques. C'est là que Simone de Beauvoir la convainc d'accepter la parution tronquée chez Gallimard, comme le met en scène le film de 2013 « Violette » de Martin Provost, consacré à la vie de l'écrivaine.
Au moins avec Gallimard, on sauve le passage sur l'avortement. Rendez-vous compte, Violette. Vous serez la première à en parler ouvertement.
Que me conseillez-vous ?
Cédez.
Et si je résiste ?
Je sais ce que vous ressentez. Nous nous rattraperons un jour, je vous le promets. Violette, regardez-moi. Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Un jour, on vous remerciera pour ça.
On est mutile. C'est affreux.
Dans le livre, qui est publié en mai 1955, la partie avec Isabelle a entièrement disparu. Et plusieurs scènes sexuelles sont abrégées. Le passage sur l'avortement est considérablement allégé. D'étonnants points de suspension remplacent les parties censurées. Car il faut bien parler de censure. Pire, si elle n'est pas de nature juridique, exercée par les organes de l'État, elle est éditoriale, c'est-à-dire exécutée par l'éditeur lui-même. C'est de l'autocensure la plus choquante de toutes les censures. Violette le Duc sort de cette expérience brisée. Pour elle, c'est un assassinat, je reprends son expression. Et tout cela va à l'encontre de la raison même pour laquelle le duc s'est mis à écrire, dire sa vérité, raconter sa vie, sans pudeur, ni hypocrisie. Violette Leduc est devenue écrivaine 12 ans plus tôt. Nous sommes alors en 1942, dans une France occupée par les Allemands. Après un mariage raté, la trentenaire a suivi son ami Maurice Saxe dans une petite maison en Normandie. Et c'est lui qui va la pousser à se mettre à l'écriture. Écrivain, il travaille sur ses manuscrits et en parallèle pratique le marché noir, avec l'aide de Violette d'ailleurs. Et bientôt, voilà que celle-ci tombe folle amoureuse de son camarade. Pourtant elle le sait, il est homosexuel, donc impasse. Mais Violette développe un penchant pour les amours, disons, impossibles, ceux qui vous laissent malheureux et suffocants de désirs réfrénés. Plusieurs fois, elle connaîtra cette situation tout au long de sa vie. Une forme de masochisme, peut-être, mais cela fait une bonne manière à littérature. C'est aussi un écho au drame familial originel. Sa mère, une femme de chambre, a été abandonnée par l'homme qui l'a mise enceinte et en a payé le prix toute sa vie. Traumatisée, cette fille-mère, comme on disait à l'époque, n'a cessé de répéter à Violette de se méfier des hommes comme de la peste. C'est ainsi que l'écrivaine explique ses nombreuses passions non réciproques au micro de France Culture en 1970.
Vous savez pourquoi vous voulez toujours que les amours soient impossibles. Ça relève aussi, ça, de votre enfance.
Absolument. Ça relève de ma mère. C'est encore la même chose. C'est parce que dès l'âge de 7 ou 8 ans, j'étais une petite fille réfléchie. Et elle m'a mise en garde contre les hommes, contre la grossesse, et elle en a fait un tableau, enfin, je le dis toujours, qui représentait pour moi l'apocalypse. Alors, j'ai fui les hommes, même à 18 ans, à 20 ans, je les ai toujours fuis. Je me suis enfin mariée, et c'était biscornu à cause de tout ce qu'il y avait derrière, justement, de se passer. Et, disons, prononçons le nom, un homosexuel. Mais évidemment, c'est un homme avec lequel on ne court aucun danger, duquel on peut avoir de l'affection, de la tendresse, des prévenances. Ils peuvent être très séduisants. On a tout, sauf le danger, la procréation.
Avec Maurice Saxe, les relations se tendent. Il faut dire que Violette Leduc n'est pas facile à vivre. Un jour, alors qu'elle déroule l'un de ses monologues récurrents où elle ressasse son passé, Maurice s'énerve. Bon, vos malheurs d'enfance commencent à m'emmerder, hein. Alors, cet après-midi, vous prendrez un cahier, vous irez vous asseoir sous un pommier et vous écrirez ce que vous me racontez. Et c'est ainsi qu'assise dans la nature, Violette Leduc écrit la toute première phrase de son premier livre, « Ma mère ne m'a jamais donné la main ». Un bel incipit. Et c'est sûr, elle tient quelque chose. Alors, tous les jours, elle se remet à écrire et donne forme à un récit consacré à son enfance, intitulé « L'asphyxie ». Plus tard, lorsqu'on lui demandera pourquoi elle écrit, elle citera toujours l'influence de Maurice Saxe comme élément déclencheur.
Vous parlez beaucoup de Maurice Saxe. Il a tenu dans votre vie une grande place.
Sûrement. C'est lui qui m'a donné l'audace, le courage d'écrire. Et je dis souvent à Simone de Beauvoir que sans lui, je n'aurais pas écrit. Elle n'est pas d'accord. Elle me dit un autre Saxe, sous une autre forme, vous aurez fait écrire. Ce que je ne crois pas. Je crois que si je n'avais pas rencontré Saxe, je n'aurais jamais écrit.
Mais bientôt, Maurice Saxe l'abandonne. Il part en Allemagne et s'engage comme travailleur volontaire. Là-bas, il collabore même avec la Gestapo, lui qui est juif, avant d'être finalement emprisonné. Alors que la guerre se termine, il meurt en 1945 lors de l'évacuation des camps.
Seul dans la nuit, main dans les poches, je vais toujours cherchant l'oubli d'un malheureux amour. Oh, toi qui passes, tu n'en sais rien. Quoi que tu fasses, sauras-tu vaincre et chasser mon chagrin, seul dans la nuit, main dans les poches. Je tue le temps tout en rêvant. mort, mon cœur espère encore. Sur terre, il n'est pas qu'une femme qui peut me donner le bonheur. J'allais peut-être faire un drame au lieu de rire de mes pleurs. Quand pour un visage entrevu, tout à coup, mon cœur ne bat plus. Seul dans la nuit, au long des rues, où que je suis, où que j'épie, allez-vous m'accorder un seul sourire, un seul baiser? Allez-vous dire les mots d'amour que j'ai tant espérés, seul dans la nuit? Cœur battant, je vous attends, car je m'ennuie toujours seul dans la nuit.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Violette Leduc.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
À la fin de la guerre, Violette Leduc revient habiter à Paris, d'où elle continue son activité de marché noir, tout comme son combat, faire éditer son manuscrit. Las, c'est une fois encore sans succès. Dans son temps libre, elle lit. D'ailleurs, elle vient de dévorer un roman d'une certaine Simone de Beauvoir qui l'a profondément marquée. Alors elle fait quelque chose d'étonnant. Elle se pare de ses plus beaux vêtements, se coiffe avec élégance, se maquille, comme pour une noce, et se rend au Flore, où elle sait que Beauvoir écrit régulièrement. Là, elle s'assoit timidement sur une banquette, près de la porte, afin de pouvoir observer la célèbre écrivaine absorbée par son travail. Violette est comme fascinée, et elle reproduit ce petit manège plusieurs fois, sans jamais avoir le courage d'aborder son idole. Mais la rencontre finit par arriver, grâce à une amie commune. Violette Leduc le raconte elle-même en 1964 sur France Culture.
J'ai rencontré pour la première fois Simone de Beauvoir au Café de Flore en 1945. Une amie me l'a présentée. Nous sommes arrivés au café à 7h du soir où le rendez-vous avait été pris. À 7h un quart personne, à 7h25 personne, je me désespérais. Je me disais, elle ne viendra pas, elle pense que c'est du superflu, qu'elle n'a pas de temps à perdre. Enfin, elle est descendue du premier étage du Flore. Elle a pris mon manuscrit, mais très distraite. Et je me suis dit, c'est fichu. Elle est partie. Et le lendemain, j'ai reçu un message de notre amie commune qui me disait que Simone de Beauvoir avait lu mon manuscrit toute la nuit, qu'elle désirait faire ma connaissance. C'est une des plus grandes joies de mon existence.
Oui, Simone de Beauvoir est séduite par le texte. Elle fait parvenir l'asphyxie à Albert Camus, qui vient de lancer sa collection Espoir, chez Gallimard, et qui entend faire découvrir de nouvelles plumes. Eh bien, le voilà enthousiaste, figurez-vous. Et voilà comment se déroule l'entrée en littérature de Violette Leduc, sur tapis rouge, de surcroît, dans une maison d'édition prestigieuse et avec la bénédiction d'auteurs réputés. Elle est aux anges. Malheureusement, les ventes ne suivent pas. Obsédée comme elle peut l'être, elle écume les librairies incognito à la recherche de son livre, trop peu mis en avant à son goût. Comme le reconstitue le film Violette, où l'écrivaine est interprétée par Emmanuel De Vos.
Excusez-moi.
Oui ?
Je cherche un roman. L'asphyxie.
Quel auteur ?
Une certaine Leduc, je crois. Violette Leduc. Ça vient de sortir chez Gallimard, collection Espoir.
Jamais entendu parler.
J'ai fait plusieurs librairies, il n'est nulle part. Vous trouvez ça normal ?
Vous savez, ça arrive souvent pour les auteurs de moindre importance. L'éditeur a jugé bon de faire un petit tirage. Voulez-vous que je vous le commande ?
Non, non, merci, je suis de passage.
Allez, la vie continue. Après cette déception, il faut penser au prochain livre. Désormais, Leduc et Beauvoir se voient régulièrement. Tous les 15 jours, les mardis, elle se retrouve au Café de Flore, au Domago ou à l'appartement de S2B, comme l'appelle désormais le duc. Après une poignée de main et un bonjour, Simone de Beauvoir lui pose rituellement la même question. Avez-vous travaillé ? Ensemble, elle parle littérature, bien sûr, livres, mais aussi films, théâtre, et surtout des écrits de Violette. Alors Simone se plonge dans ses textes et propose coupe ou réécriture. Régulièrement, elles dînent toutes les deux dehors et finissent la soirée autour d'un whisky. Très vite, la protégée est prise d'une violente passion pour sa mentor. Oui, elle l'aime, avec une grande dévotion, et finit par le lui avouer. Beauvoir est très claire, elle ne nourrit pas les mêmes sentiments. Mais comme on le sait, Violette le Duc a le goût des amours désespérés. Elle continue donc à fréquenter l'objet de son affection, en tant que simple relation amicale, et se languit de ses absences, pendant lesquelles elle lui écrit de déchirantes lettres, comme celle-ci, lue par Catherine Yégel sur France Culture.
« Chère Simone de Beauvoir, vous savez bien que pour vous, je suis toujours libre, toujours libre. Je vous aime, alors j'ai besoin de vous voir le plus vite possible. Il faut me croire, vous êtes tout pour moi, je n'ai que vous. Je vous demande pardon de vous dire ma peine. Si vous saviez, comme j'ai toujours peur de vous déplaire, de vous accabler, je vous aime, vous le sentez que c'est vrai que je vous aime. Je viendrai jeudi à 7h30 au Domago. »
Le deuxième roman de Violette le Duc est consacré à cette dévorante passion. Son titre, L'affamé. L'ouvrage paraît en 1948. Comme pour son premier livre, les critiques sont positives. On loue son style très particulier, ses phrases au rythme saccadé, son goût pour les métaphores lyriques. Mais c'est un échec commercial, encore un. Le Duc est ce qu'on appelle une écrivaine pour écrivain, autrement dit louée par ses pairs, mais boudée par le public. C'est vrai qu'elle est bien introduite dans le petit milieu germano-pratin. Elle devient amie avec Nathalie Sarraute, alors elle aussi débutante, et rencontre Jean Genet, un bâtard comme elle, dit Violette, et de qui elle sera un temps très proche. Dans une archive de 1970, elle revit leur rencontre.
Mon plus joli souvenir, c'est toujours la première apparition. Et c'est un soir où j'étais au Pont Royal avec Simone de Beauvoir. Et tout à coup, j'ai vu arriver en bas de l'escalier, qui est comme une petite scène au Pont Royal, avant qu'on pénètre dans la salle, j'ai vu arriver un homme en raglan, pas très grand, très sûr de lui, enfin, très orgueilleux au vrai sens du mot, c'est-à-dire justement sûr de sa valeur. Et j'ai dit à Simone de Beauvoir, voilà Genet. Elle s'est rebiffée, elle m'a dit comment Genet, mais vous ne le connaissez pas. J'ai dit, je vous dis, voilà Genet. Alors il est arrivé à notre table, il s'est assis en face de moi, je me suis présentée, et vraiment avec une immense tendresse, il m'a dit, j'aime beaucoup votre asphyxie.
Et Jean Genet la présente à Jacques Guérin, un riche parfumeur qui a beaucoup d'estime pour l'écrivaine. C'est un coup de foudre pour le duc, qu'il aimera d'une passion intense, mais non partagée, pendant plus de 20 ans et sans que cela n'enlève rien à son amour pour Beauvoir. Englué dans ses histoires à sens unique, Violette le Duc reste désespérément seule. Surtout, elle est très angoissée par sa situation financière et se lamente constamment auprès de Beauvoir des faibles ventes de ses livres. Faut bien vivre. Sa protectrice a alors une idée originale. Lui verser une pension mensuelle, via Gallimard, en lui faisant croire que c'est l'éditeur qui souhaite ainsi l'aider à rédiger son prochain livre. Une manière de l'aider financièrement, tout en ménageant son égo. Et de fait, cette allocation lui permet de travailler à un ouvrage conséquent qui devient Ravage, avec les déboires que l'on sait. Mais en ne mettant jamais en avant le fait qu'elle a payé de sa poche, Simone de Beauvoir a fait preuve d'une certaine élégance. En 1954, quand Gallimard refuse de publier le texte Ravage, tel quel en tout cas, Violette le Duc est traumatisée, on l'a dit, et elle somatise. Après son rendez-vous avec Jacques le Marchand, elle est prise d'une forte fièvre. Pour le médecin, une seule explication, c'est le choc. Les crises de pleurs s'enchaînent. Violette ne se remet pas de la censure. Voici comment elle l'évoquera quelques années plus tard dans son livre La chasse à l'amour.
J'ai eu mal à ma poitrine le jour où j'ai appris leur refus. J'ai été atteinte en plein cœur. La société se dresse avant que mon livre paraisse. Mon travail est mis en pièces. Continuer d'écrire après un pareil refus, je ne peux pas. J'ai donné ma vie en écrivant le texte de Thérèse et Isabelle. Est-ce pour être humiliée ? Ils ont cisaillé mes élans, broyé mes trouvailles. Ils ont tiré sur moi à bout portant.
Et malgré le sacrifice, malgré les coupes, c'est un nouvel échec, le livre ne se vend pas. Alors l'écrivaine perd un peu plus confiance en elle et en sa capacité à vivre un jour de sa plume. Affligée par sa situation, elle est de plus en plus exécrable avec ceux qui l'entourent. Elle fait des scènes, elle s'emporte. Depuis quelque temps déjà, elle avait des problèmes de santé mentale qu'elle avait jusque-là réussi à contenir. Mais la situation actuelle lui est tellement insupportable que la maladie devient incontrôlable. Violette Leduc souffre d'un délire de persécution, c'est clair. Elle se sent suivie, épiée. Si elle entend un nom familier à la radio, cela veut dire que c'est elle qui est visée. Un craquement au plafond, un paquet de cigarettes au sol sont autant de signaux que ses tourmenteurs lui adressent. Devant cette dégradation de son état, Simone de Beauvoir la presse de consulter un psychanalyste. Celui-ci lui propose alors une cure de sommeil. En 1956, Violette passe 6 mois dans une clinique à Versailles où elle reçoit même des électrochocs. Mais comme on pouvait le craindre, le traitement est un échec. L'écrivaine doit ensuite passer de longs mois dans une maison de convalescence. Malgré des améliorations au fil des années, tout de même, elle ne guérira jamais totalement de son mal. D'ailleurs, après l'échec de Ravage, elle veut tout plaquer. Comment se remettre à écrire après tout ça? Mais une fois de plus, Simone de Beauvoir est là pour presser sa protégée de se remettre au travail, comme l'explique Violette elle-même dans cette archive.
Je l'ai dit 1000 fois et je le redis, je lui dois tout. Et si Simone de Beauvoir, après Ravage, ne m'avait pas tenue à la force du poignet, j'aurais tout abandonné. Elle a toujours eu confiance et elle m'a infusé sa confiance. Et je le répète, c'est à elle que je dois tout et je ne l'oublie jamais.
Simone de Beauvoir est en train d'écrire le premier tome de son autobiographie « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Et si Violette en faisait de même ? Beauvoir en est persuadée, c'est par là que sa protégée doit recommencer. Oui, tout reprendre depuis le début, depuis la naissance, et cette fois, assumer clairement l'autobiographie. Alors, pendant 5 ans, Violette Leduc reprend ses stylos et se remet au travail. Elle couche sur le papier sa naissance, son statut de bâtarde, comme elle dit, son enfance, ses amours et sa prétendue laideur, dont elle se désole tant. Pour le passage sur son amour pour Isabelle, elle reprend une partie des pages écrites pour Ravage, qui avait tant gêné le comité de lecture de Gallimard. Mais cette fois, ça passe. L'éditeur tout-puissant n'oppose pas de refus. Il faut dire qu'en quelques années, la société française a bien changé. La bâtarde, c'est le titre du livre qui sort en 1964. Simone de Beauvoir en a écrit la préface pour attiser la curiosité du grand public. Et ça marche. Dès les premières semaines, la bâtarde se vend, et très bien même. Alors, comment expliquer enfin ce succès? Bon, il y a ce titre choc, bien sûr, qui fait beaucoup. Et il y a l'aspect sulfureux que l'on prête au livre. Ces confessions attirent cette France des années 60 qui se veut plus libérée. Bientôt, il se murmure que la bâtarde pourrait même décrocher le prix Goncourt. Oui, oui, les journaux présentent l'ouvrage comme l'un des grands favoris de la saison des prix. Et si ce n'est pas le Goncourt, ce pourrait être le Femina. Hélas, les récompenses lui passent sous le nez. Au grand regret de Dominique Rollin, jury du prix Femina.
Je trouve qu'il y avait d'autres livres qui auraient été beaucoup plus passionnants à défendre cette année-ci, dont par exemple le livre de Violette Leduc qui aurait été un admirable prix Femina.
Le livre de Violette Leduc a peut-être été repoussé parce qu'il n'est pas peut-être assez grand public.
Oh mais non, pas du tout. Regardez, le livre en est déjà à 60 000 exemplaires. Ça aurait été un admirable prix Femina. Et puis ça aurait été très courageux de notre part de couronner un livre qui est aussi peu réactionnaire, aussi libre et aussi honnête et courageux que celui-là. Seulement, il faut croire que nous sommes encore extrêmement ancrés dans des sortes de résistances morales qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout.
Des résistances morales, c'est possible. D'ailleurs, pour s'opposer à Leduc, l'un des jurés du Goncourt argue que ce livre n'est pas, je cite, à poser sur le coin de cheminée d'une famille française. Le duc lui répondra avec malice qu'elle n'écrit pas pour les cheminées. Mais prix littéraire ou non, qu'importe finalement. La bâtarde continue de se vendre et en quelques mois atteint les 170 000 exemplaires. C'est un best-seller. À 57 ans, 24 ans après avoir composé sa première phrase sous un pommier en Normandie, Violette le duc est désormais une star littéraire. Les années suivantes sont celles de la fête et des célébrations. On l'invite à des cocktails, des vernissages, des avant-premières. Dorénavant, l'écrivaine est la coqueluche des médias. Henri Cartier-Bresson la photographie, Brigitte Bardot veut la rencontrer. Violette Leduc, qui a toujours été très coquette et attirée par l'univers du luxe, s'en donne à cœur joie. Et avec un certain goût de la provocation, elle arbore manteau de fourrure, boa rose et mini-jupe qui font fureur. Et alors, après avoir tant couru derrière le succès, il est temps de s'amuser un peu, non? Tout va tellement bien que l'édition américaine du magazine Vogue lui commande des articles sur la haute couture ou encore la dépêche sur le tournage du film Le Docteur Jivago. On lui propose même un caméo dans le film Qui êtes-vous, Polly Magou, où elle incarne une journaliste de mode. Au printemps 66, soit 2 ans après la sortie de La Bâtarde, alors que Violette Leduc ressasse la censure de son texte sur Thérèse et Isabelle 10 ans plus tôt, un ami lui conseille d'aller voir l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. Après tout, puisque Gallimard n'a pas voulu de ses pages, ça ne doit pas empêcher un autre de les publier. Bonne pioche, Pauvert accepte immédiatement, et ce, sans même avoir lu le manuscrit. Violette Leduc est désormais ce qu'on appelle un nom. On est prêt à lui proposer un contrat les yeux fermés. Par courtoisie, Violette prévient tout de même Gaston Gallimard du projet. Et celui-ci s'empresse de mettre le holà à cette initiative. Le grand éditeur a misé sur Leduc alors qu'elle était une inconnue. Il est hors de question de la laisser filer vers la concurrence maintenant qu'elle est une star, ne serait-ce que pour un seul livre. Gaston Gallimard envoie alors ce courrier à son autrice pour la rappeler à l'ordre avec une version des faits qui, disons, celle de l'éditeur.
Chère madame, c'était d'un commun accord que nous avions jugé préférable de sursoir à la publication de ce texte qui, tout d'abord, devait être joint à Ravage. À l'époque, on pouvait craindre des poursuites qui auraient paralysé la diffusion de ce livre en librairie. Mais il n'a jamais été question pour moi de refuser ce texte. Du moment que vous êtes résolu aujourd'hui à le rendre public, je suis prêt à en prendre les risques. Je vous confirme donc que je suis tout disposé à publier votre ouvrage.
Quoi qu'il en soit, et c'est le principal, en 1966, 12 ans après la censure initiale, le texte « Thérèse et Isabelle » paraît donc enfin chez Gallimard, mais dans une version retravaillée et tout de même raccourcie de plusieurs dizaines de pages. Mais bon, le livre est salué par la critique et se vend bien. 90 000 exemplaires en quelques années. Et là, il ne rencontre aucun problème de censure judiciaire, ce livre. Oui, il est temps changé. Après le succès de La Bâtarde, Violette Leduc s'attaque à la suite de son autobiographie et publie un deuxième tome en 1970, La Folie en tête. Mais alors qu'elle travaille à un troisième tome, la voilà rattrapée par un cancer du sein. Le 29 mai 1972, cette nouvelle tombe dans le journal de France Inter.
La romancière Violette Leduc est morte hier soir chez elle dans le Vaucluse après une longue maladie. Elle avait 65 ans, Paul Amar.
Née à Valenciennes de père inconnu, Violette Leduc a été très marquée et par sa bâtardise et par un manque de charme physique. Ses romans en portent la trace, surtout La Bâtarde qui, citée au prix Goncourt en 1964, a fait connaître Violette Leduc du grand public.
Fin de l'histoire, pas tout à fait. Au fil des années, l'œuvre de Violette Leduc devient un symbole de la manière dont certaines femmes artistes ont été empêchées par une société arc-boutée sur ses conservatismes. En 2006, dans son fameux essai King Kong Theory, Virginie Despentes la cite comme un exemple de la femme censurée par un monde de l'édition aux mains des hommes. « Moi, je suis de ce sexe-là, écrit-elle, celui qui doit se taire, qu'on fait taire, et qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche, sinon c'est l'effacement. » Invisibilisé, dirait-on aujourd'hui. De leur côté, quelques universitaires et spécialistes leduciens exhument des textes inédits issus des cahiers de travail de Violette Leduc. Quant à la version intégrale de Thérèse et Isabelle, elle sort enfin en 2000, ainsi que quelques autres extraits non publiés de Ravage dans les années suivantes. Bien sûr, les passionnés de l'écrivaine sont obsédés par une question qui revient sans cesse. Mais alors, à quoi ressemblait-il ce Ravage, version intégrale proposée par le duc à Gallimard en 1954? Impossible de le savoir. Le dactylogramme original n'a jamais été retrouvé. Mais récemment, 3 universitaires, Alexandre Antelin, Anaïs France et Mireille Brioud, ont longuement analysé certains carnets de travail de Violette Leduc afin de reconstruire Ravage au plus près de ce que voulait initialement l'autrice. Et c'est ainsi qu'en 2023, les éditions Gallimard sortent une nouvelle version augmentée des passages tronqués. Un ouvrage à tout jamais libéré de la censure. Mais que de ravages il aura fait dans l'édition. Aujourd'hui, l'histoire de Violette Leduc, l'histoire d'une censure dont nous parlons avec notre invitée Anaïs France. Bonjour.
Bonjour.
Docteur en littérature et civilisation française, enseignante dans les universités américaines de Paris. Alors, vous avez coordonné l'ouvrage Violette Leduc, genèse d'une œuvre censurée, paru en 2019 aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez participé à l'édition augmentée de Ravage, dont nous venons de parler. Travail effectué aux côtés d'Alexandre Antolin et de Mireille Brioudre. Et le livre a été publié en 2023 chez Gallimard, donc, dans la collection L'Imaginaire. D'abord, à quoi ressemblent les cahiers de travail à partir desquels a été reconstitué Ravage et sur lesquels vous avez travaillé?
Alors, Violette Leduc, elle écrit sur des cahiers d'écoliers à l'encre bleue. Elle a une écriture très lisible, à la différence de celle de Simone de Beauvoir. Et donc, ce sont des cahiers numérotés. Et pour Ravage, il existe deux séries de cahiers. Ceux qu'on a appelés les brouillons Guérin, qui ont été offerts à Jacques Guérin et qui représentent un premier état d'écriture, sans doute entre 1948 et 1951. Et ensuite, les cahiers Beauvoir, donc le brouillon qui a été offert à Simone de Beauvoir.
Et alors, vous arrivez à voir le travail de Violette Leduc, pas la quasi-totalité, est adjoint le travail de Simone de Beauvoir. Les écritures sont différentes. Alors, quelle est la proportion? Qu'est-ce que vous avez vu? À quel point Simone de Beauvoir est-elle intervenue?
Alors, c'est vrai qu'elle intervient. Ça, c'est toujours une grande discussion entre les chercheurs et chercheuses sur l'œuvre. Alors, lorsqu'elle intervient sur un manuscrit, Simone de Beauvoir, elle utilise le caractère script. Donc, c'est plus lisible que dans ses propres manuscrits à elle. Et par exemple, dans Thérèse Isabelle, on voit qu'elle va simplifier certaines formules qui paraissent très baroques. Violette Leduc cherche à décrire les sensations physiques ressenties par une femme dans l'amour. Et elle utilise des images parfois très développées. Et donc, Simone de Beauvoir va toujours aller vers l'essentiel. Par exemple, si Violette Leduc parle de la langue qui flatte les chairs, Simone de Beauvoir va traduire par « la flatteuse ». Donc, tout de suite, ça va vers l'essentiel, mais il y a un petit voile aussi qui est mis sur la recherche de Violette Leduc de décrire avec exactitude les sensations physiques.
Donc, c'est un voile de pudeur qui est en fait un élément de censure.
Alors, Simone de Beauvoir, elle a écrit deux essais critiques...
Enfin, d'autocensure, pardon, parce qu'on imagine mal Simone de Beauvoir censurée, mais dans la mesure où elle réécrit, c'est une forme d'autocensure.
Alors, à nuancer au sens où Simone de Beauvoir a écrit deux essais critiques sur des écrivains, Sade et Violette Leduc. Donc l'érotisme, c'est pas forcément un problème pour elle. Elle essaie de défendre une vérité humaine qui peut passer par l'expression de la sexualité, mais c'est une personne efficace. Et elle a aussi un projet qui est plus politique que poétique, Simone de Beauvoir. Donc c'est aussi une... Mais effectivement, on peut trouver des pages et des pages, en particulier dans le dernier roman de Violette Leduc que vous avez cité, La chasse à l'amour, où on a des centaines de pages qui ont été mises de côté au moment où Simone de Beauvoir va publier le livre, et où on peut trouver des passages qui valent la peine d'être relus.
Alors cette histoire, évidemment, n'honore pas Gallimard, qui décide de ne pas publier le texte dans son intégralité. Alors il y a l'idée que la commission de censure pourrait intervenir. Pourquoi ils n'ont pas tenté le coup non plus?
Alors tout à fait. Donc effectivement, on a un contexte qui est hostile à l'expression d'un érotisme féminin, et en plus, bien plus, à un érotisme lesbien. Donc il y a cette commission qui surveille les publications à destination de la jeunesse et qui prévient tout ce qui pourrait représenter un danger. Et dans la liste, les questions de sexualité, mais aussi d'homosexualité. Beaucoup de contemporains de la censure ont témoigné, que ce soit Dominique Horry ou Jean-Jacques Pauvert dont vous parliez, qu'il y a un traitement différent entre les textes de femmes et les textes d'hommes aux éditions Gallimard. Et ne serait-ce que certes, il y a cette censure prudente, mais par exemple, le lecteur, la lectrice de Ravage 1955 voit la censure dans les pointillés qui remplacent certaines scènes. Il s'agit des scènes entre Thérèse et Marc, c'est-à-dire des scènes de sexualité hétérosexuelle. Les pages de Thérèse et Isabelle, qui représentent toute une partie, 150 pages, où les lignes qui sont ôtées de la scène de l'avortement, la censure là est invisibilisée. pour reprendre votre mot, c'est-à-dire qu'il y a un traitement différent entre une censure de scènes d'hétérosexualité jugée choquante pour l'époque et puis une censure de scènes d'amour lesbien ou toute la question de l'expérience vécue par les femmes qui est la censure est invisibilisée, donc on voit qu'il y a un traitement différent.
Alors, vous parliez du contexte et on va le voir d'ailleurs, on va l'entendre dans cette archive extraite de la célèbre émission Radioscopie de Jacques Chancel, sur cette antenne bien sûr, c'était le 28 avril 1970 l'invité, et Violette Leduc justement.
Violette Leduc, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est nécessaire de se raconter jusque dans ses plus étranges amours?
Oui, il faut raconter ce qui est. Si on entreprend une biographie, il faut y aller à fond. Si on n'y va pas, on n'y va pas à fond, c'est vraiment tricher. D'autre part, il n'y a pas d'impossibles amours. Il n'y a qu'à lire Freud. Il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de dévié. Tout peut s'arranger. Et tout s'arrange d'autant mieux où qu'on peut le confier de vive voix, où qu'on peut l'écrire. Mais la damnation, j'y crois pas. C'est un mot de pacotille.
Il n'y a rien de scandaleux.
Non, à mon avis, non.
Violette Leduc.
Ce qui est scandaleux, c'est la cachotterie.
Vous voyez, Chancel insiste, donc il n'y a rien de scandaleux. Vous êtes sûr? C'est ça le contexte. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, c'est vrai que pour moi, le projet de Violette Leduc, c'est d'offrir à ses lectrices un récit d'amour entre deux jeunes filles qui est la force de la prose d'Émilie Brontë dans Les Hauts du Hurlevent. Donc on est dans un registre complètement différent de celui du scandale. Donc elle est sur un plan poétique. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai insisté, et Margot Gallimard m'a totalement suivie, pour reprendre cette incipit, le début du tout premier manuscrit avec ce motif du vent nocturne, qui permet de raccrocher le roman Ravage à une lignée littéraire féminine, lesbienne, dont il avait été arraché par la censure. Mmh. Et on peut penser par exemple à Sappho qui décrit Eros comme un vent violent qui s'abat sur les grands chênes. Donc ce motif du vent, il est très poétique, il y a une violence, mais on n'est pas dans le registre du scandale ou de la provocation qui a pu être interprétée à la suite de la publication.
Anaïs France, en mai 1954, Simone de Beauvoir écrit dans une lettre à Sartre à propos de la timidité, on va dire ça comme ça, de Gallimard à propos de Ravage. La scène du taxi scandalise littéralement les gens. Queneau, le marchand, j'ai l'impression que ça les blesse en tant que mâles. C'est ça qui coince, des hommes blessés en tant que mâles.
Alors c'est vrai que le cahier Beauvoir a donné un nouvel éclairage sur la relation entre Thérèse et Marc. Et là, certainement, la parole de Violette Leduc dans le manuscrit de Ravage se libère aussi sous l'influence de la lecture du deuxième sexe, où Beauvoir présente la première expérience dans l'hétérosexualité pour les femmes comme une expérience du viol. Donc, Violette Leduc ne reviendra jamais sur cet épisode, mais la manière dont elle raconte cette expérience déjoue totalement les représentations du genre de l'époque et apparaît blessante au sens où, dans cet épisode violent du taxi, on ne peut pas vraiment distinguer qui est totalement la victime, qui est le bourreau. Violette Leduc, c'est cette écrivaine qui sans cesse va surmonter des obstacles, mais se relever. Il y a quelque chose d'insaisissable dans cette description de ce rapport hétérosexuel violent, quelque chose qui déstabilise totalement, avec ce personnage masculin qui apparaît dans sa fragilité, en fait.
Et alors, dans son œuvre et dans ses interviews, Violette Leduc insiste beaucoup sur le fait qu'elle est, je cite hein, évidemment, laide. Bah, pourtant, quand on regarde les photos d'elle, on est un peu surpris par le qualificatif. Et d'ailleurs, on s'en fiche complètement, pour être clair. Mais enfin, comment expliquez-vous qu'elle s'en fichait pas et qu'elle ait tant insisté sur ce point?
Ah oui, ça c'est drôle. Et d'ailleurs, il y a eu une adaptation au cinéma dans les années 60 de Thérèse et Isabelle. Et Violette Leduc se sentait très flattée d'avoir été incarnée par une actrice très belle au sens où elle cochait toutes les cases des critères de la beauté occidentale, une actrice blonde, etc. Alors, Violette Leduc, elle est sous le coup de ce que Didier Ribon a appelé le verdict social originaire. C'est-à-dire, elle incarne la faute dans un système très injuste, profondément injuste, où la fille-mère, l'enfant bâtard sont culpabilisés et rendus responsables d'une grossesse hors mariage. Et ce verdict social originaire résonne à tous les niveaux de son existence.
Et alors, c'est bien, Simone de Beauvoir s'est vraiment beaucoup occupée de l'œuvre de Violette Leduc et d'elle-même. Mais est-ce que ça lui a pas fait un peu d'ombre, le Duc? Parce que quand même, Simone de Beauvoir, dès lors qu'elle intervient, on a tendance à retenir d'abord Simone de Beauvoir.
Ah oui, alors, c'est sûr qu'en 1954, c'était difficile, parce qu'en même temps que la censure de Ravage, tombe le prix Goncourt pour Simone de Beauvoir, pour Les Mandarins. Mais elle, comme on l'a entendu dans l'archive tout à l'heure, elle avait quand même beaucoup de reconnaissance. Et Simone de Beauvoir, on voit aussi qu'elle elle encourage Violette Leduc, elle lui donne les conseils qui sont bons pour elle. Elle lui conseille d'écrire Ravage, parce qu'elle-même, son premier roman, c'était sur un trio amoureux. Ensuite, elle lui conseille de reprendre toute sa vie et d'écrire La Bâtarde, son autobiographie, parce qu'elle-même, avec les mémoires d'une jeune fille rangée, c'est ce qui fonctionne. Donc Simone de Beauvoir, elle l'accompagne et lui donne des bons conseils, ceux qui fonctionnent pour elle-même.
Est-ce qu'on peut dire que le Duc a eu une place un peu similaire pour Simone de Beauvoir à celle qu'occupait Jean Genet pour Sartre?
Alors, on a fait souvent le parallèle avec, en plus, la préface à La Bâtarde, qui reprend un texte important de Sartre pour Genet. Effectivement, c'est pas faux. Et là, une fois encore, on voit à quel point, dans les éditions Gallimard, il y avait un traitement différent pour les textes d'hommes et d'hommes homosexuels, et les textes de femmes et les récits lesbiens.
Et quant à Simone de Beauvoir, quand même, c'est rare, il y a aussi l'aide financière qu'elle lui donne, avec carrément une pension mensuelle. Donc c'est rare de voir ainsi une autrice en aider une autre à ce point. Comment ça s'explique aussi? Parce que c'est une espèce de miroir.
Alors, il y a la question de la classe sociale à laquelle Simone de Beauvoir est très sensible, hein, et c'est quelque chose de très important qu'elle décrit dans le chapitre du deuxième sexe où elle évoque Violette Leduc. Violette Leduc, elle connaît la précarité, la grande précarité depuis qu'elle est, depuis sa naissance. Simone de Beauvoir est sensible à cette situation de femme précaire et talentueuse. Et je pense que l'estime que Simone de Beauvoir a pour Violette Leduc, c'est aussi cette belle trajectoire de vie. Leduc, elle incarne cette notion de destin féminin qui est très très importante dans la philosophie de Beauvoir. Et elle affronte ce destin, elle est toujours yeux dans les yeux avec ce destin, elle surmonte les obstacles. Et donc ça vaut la peine pour Simone de Beauvoir de soutenir un courage et puis un style littéraire.
Justement, à propos de style, il ne reste que quelques secondes, mais quel est votre regard sur la qualité purement littéraire et stylistique de Violette Leduc?
Elle a une très grande écriture elle essaie de hausser l'érotisme féminin à un rang de grande littérature. Et je pense que c'est ça qui distingue aussi l'histoire de cette censure.
Mais il faut retenir aussi la grande littérature, pas que la censure. Merci infiniment, Anaïs France.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Violette Leduc et la censure de son roman Ravage. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Renan Mahay.